Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actu des ados. Vous le savez maintenant, la seule émission pensée créée présentée par des ados. Vous voyez aujourd'hui autour de la table, nous sommes nombreux pour ceux qui nous regardent sur Béaba. Sinon, pour ceux qui sont à la radio, on va vous expliquer tout à l'heure. Donc dans le sommaire, malheureusement, j'ai le regret de vous informer que c'est la dernière émission de la saison. On va vous expliquer après, à la fin de l'émission, comment tout ça va se dérouler. Sinon, bonjour Baptiste.
Bonjour Alexandre, bonjour à tout le monde.
Au sommaire aujourd'hui.
Donc, dans le sommaire aujourd'hui, tout d'abord à la une, donc, nous accueillons donc une action de la paroisse, donc hébergement solidaire, donc avec un intervenant, donc Jean-Pierre, et deux immigrants, donc Gilbert et Espérance. Donc bonjour à vous trois.
Bonjour.
Et en deuxième sujet débat, nous allons parler du réchauffement climatique. Faut-il s'en inquiéter ?
Le mix de toutes les cultures, 99.1.
Et tout de suite, les amis, pour commencer cette émission en beauté, nous allons faire une revue de presse spéciale Armada, comme si on n'en avait pas déjà assez parlé. C'est vrai que l'Armada a été bien médiatisée, il y a eu beaucoup de médias, mais nous, on a fait notre petit tour. Et je vous assure que là, on va vous parler de la fin, car effectivement, au micro de France Bleu, des gens se sont mis à pleurer et à s'alarmer, car effectivement, l'Armada s'est terminé. En effet, depuis le samedi 15 juin, la dernière soirée des bateaux. Moment festif, mais aussi riche en émotions, surprises, en débarquant sur les voiliers donc mexicains. Les Mexicains ont encore touché le cœur des Français et Françaises, notamment ceux des Rouennais, puisque les Mexicains ont encore fait des ravages de cœur chez les Rouennaises. Où les adieux sont très très douloureux. On s'est rencontrés lundi, on a dansé et on s'est revus. Naomi qui a parlé au micro de France Bleu. L'Armada, c'est aussi plein de stands à découvrir. Bon, c'est passé maintenant, mais on va quand même vous faire une petite revue en vidzep de tous ces beaux stands. Il y a eu la Croix-Rouge, où notamment en Radio HDR avec le Blabamix Actu des Ados, nous avons fait donc ce beau reportage sur l'Aquarius avec notre sujet du jour qui est hébergement solidaire avec les migrants. Il y avait aussi notamment l'armée, la marine, qui a recruté, qui était là. Il y a eu aussi des artistes peintres, des musiciens ou encore des écrivains avec l'interview qui passera en fin de revue de presse d'un écrivain qui a justement écrit sur Rouen au XVIIe siècle, pendant la guerre, etc. Vraiment de très belles rencontres. En tout cas, moi, j'ai été agréablement surpris par tout cela. Et il faut savoir que la ville, on a questionné la ville pour savoir quels étaient les bénéfices, etc. On n'a rien eu du tout. Ils nous ont juste dit que économiquement, la dernière armada avait fait plus de 19,9%. Enfin, c'était des chiffres totalement...
Il se passait quoi ?
C'était des chiffres totalement faramineux. Voilà pour cette armada. Et ensuite, alors on est aussi allé à la célèbre messe de l'armada où on a interviewé Baptiste et moi. En tant que journaliste reporter, on a interviewé donc monsieur le cardinal qu'on vous passera aussi. Enfin, pas le cardinal, mais ma tête est ailleurs aujourd'hui. L'évêque de Rouen, où on l'a interviewé par rapport à cette belle messe des marins, puisque voilà, la marine, c'est quelque chose quand même de très 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 symbolique, surtout spirituellement. Donc
une nation en messe qui est très très rare là pour ce culte qui est l'armada, parce qu'on a vu la messe où ça a été parlé en arabe, en russe, en d'autres langues aussi.
Ben oui.
Qu'est-ce que ça représente, ça?
Alors c'est tous les jours. Tous les jours que nous sommes unis dans l'univers entier par la messe. C'est la même messe, les mêmes textes, etc. Et alors, naturellement, dans les lieux où les nations se retrouvent, eh bien, nous prions ensemble d'un seul cœur. La spécificité peut-être aussi de Jésus qui est venu pour toutes les nations. Et donc, nous pouvons prier dans toutes les langues.
D'accord. Parce qu'il nous entend qu'on soit... de n'importe quelle autre religion, ou voilà, même
chacun,
d'une autre langue.
Et... chacun dans notre langue, c'est justement cette fête aujourd'hui de la Pentecôte, où l'Esprit Saint vient à Jérusalem, il y avait plein de nations qui étaient réunies, et chacun comprenait dans sa langue. Ça, ça n'efface pas les différences. Mais on s'entend, on se comprend.
Voilà.
Et l'unité progresse.
C'est l'importance, ok.
Et pourquoi les marins sont plus attachés à Marie que les autres?
Alors il faut leur demander aux marins. Pourquoi les marins sont attachés à Marie?
Plus que d'autres.
Oui, pourquoi on est attaché à Marie? Parce que c'est la mère de Dieu et puis c'est notre sainte patronne. Et c'est vrai que tous les marins du monde entier se réfèrent à Marie lorsqu'ils ont besoin de force et de protection. Notre canot de sauvetage de Calais avec lequel on est venu, c'est le Notre-Dame du Risement. Tous les ports de France et de Navarre, je parle pour la France, ont une Notre-Dame qui est leur sainte mère, leur protectrice. Et chez nous, dans les falaises, à chaque fois que les marins pêcheurs passent à tel endroit, ils donnent un petit coup de pont pour rendre gloire à Marie Médiatrice, à Notre-Dame du Risement, à Notre-Dame des Dunes, à Notre-Dame des Tempêtes. Voilà, c'est à la fois de la religion, c'est un attachement, puis c'est une demande de protection.
D'accord.
Effectivement, pour la fête de la musique, donc c'est du 20 au 22 juin, pendant deux jours. Enfin, ils disent trois jours sur le truc de Rouen, mais bon, c'est pas vraiment exact. Pendant trois jours, c'est-à-dire pendant l'armada, pendant la fête de la musique, va circuler un bus discothèque, que je retrouve mon article. C'est donc une boîte de nuit gratuite. Donc, pour l'occasion, le réseau Astuce a donc fait aménager un bus transformé en discothèque. Banquette en cuir, lumière colorée, écran, toit panoramique. Vous n'aurez même plus l'impression d'être dans un bus bondé en direction du campus le mardi matin à 9h. Et oui, de 21h à minuit, les 20 au 22 juin 2019, ce sont les TER entre le CHU Kind Arena et même la ligne T4, donc entre le Boulingrin et Zénith, où il y aura ce bus discothèque apparemment gratuit, donc super pour la fête de la musique, pour ceux qui veulent sortir et danser, on sera directement mis dans l'ambiance. Voilà. Sinon, dans la revue de presse, nous parlons aussi de panneaux de signalisation. Alors bon, je ne vais pas reparler encore une fois de la loi des 80 km/h, puisque nous savons maintenant qu'en Normandie, ça y est, on est repassé à 80, 90, les députés, on ne sait plus. Mais moi, je vais vous parler de quelque chose d'un peu plus mignon. Ce sont des nouveaux panneaux qui sont introduits donc dans un clip en Grande-Bretagne, ensuite après je vous parlerai de la France, mettant en scène différents animaux concernés, rappelant donc l'objectif principal pour éviter de provoquer des accidents en autoroute et surtout sur les routes accidentogènes. Donc pour ceux qui sont sur Béaba, vous voyez les tout nouveaux panneaux en Grande-Bretagne, des panneaux avec des hérissons, attention hérissons, attention ceci cela grenouille. Donc pour ceux qui veulent voir le petit clip qui est vraiment sympa, c'est DEEP, DEEPT, Fort Transport. Voilà. Et donc en 2017, 629 personnes ont été blessées dans des accidents impliquant des animaux sur la route. Voilà pourquoi on a créé donc ces nouveaux panneaux. Et 4 personnes sont mortes, rappelle le ministre des Transports britannique dans son communiqué. Entre 2005 et 2017, ce sont 100 morts et 14 173 blessés. Donc, est-ce que ces panneaux vont être utiles en Grande-Bretagne ? Panneaux attention hérissons, etc. Voilà, bon. Donc, c'est bien mignon. Moi, je vous invite à aller voir le petit clip. Sinon, qu'est-ce qui se passe en France ? Eh bien, la France, elle, n'est pas épargnée par ces accidents causés par des collisions avec des animaux. En 2017, la sécurité routière nous rappelle que 142 accidents, dont 10 morts et 162 blessés. Pour rappel, 4 panneaux signalant principalement des passages d'animaux domestiques, dont avec la croix, la vache, le mouton, le cerf et le passage avec les chevaux, quoi. Généralement. Ensuite, généralement quand il y a des, comment on appelle ça, des centres équestres, voilà, c'est ça. Les panneaux qu'on trouve en réalité donc dans de nombreux pays comme ceux-là, attention aux animaux, c'est en Angleterre, en Allemagne ou encore plus dingue, à Taïwan. En France, plusieurs initiatives ont également vu le jour pour protéger les animaux sauvages des dangers de la route. Et en particulier donc avec des tunnels sous les autoroutes, car effectivement il y a aussi des coins en France où je ne savais pas, il y a des forts taux de passage de grenouilles, et apparemment ça pourrait faire de ces routes des routes très accidentogènes, donc pourquoi pas faire, ah oui c'est drôle hein, mais c'est vrai, ça peut faire de ces routes des routes accidentogènes. Donc enfin en Isère, en Haute-Savoie, des radars anti-animaux sont en test en ce moment même, un dispositif efficace dont le nombre de collisions entre les véhicules et animaux ont été divisés par 4. Et voilà pour ces panneaux. Un nouveau musée pour Louis de Funès.
Je n'ai pas compris. J'en ai trop dans la matinée. Dis-moi que ce n'est pas vrai.
Un nouveau musée pour monsieur Louis de Funès, un grand artiste que j'espère pour vous que vous connaissez.
Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être accablé comme ça par le destin ?
Un grand artiste, surtout un acteur, et puis bon, malheureusement il est décédé, mais son fils a refait un nouveau musée pour célébrer son vivant, quoi, en fait, à son honneur.
Mais c'est ignoble chez vous. Comment peut-on vivre dans un gourbi pareil ?
Donc, depuis donc, la fermeture du musée Cellier près de Nantes, fin 2017, c'est la collecte de Louis de Funès a été rangée dans les caisses conservées par sa famille. Après avoir passé à Nantes et à Nice, sa petite-fille Julia de Funès s'est entendue avec Frédéric, maire de Saint-Raphaël LR, République En Marche, hein, on le sait. Les Républicains, excusez-moi. J'ai rencontré en septembre 2018 l'une de nos conférences dédiées à la philosophie et elle m'a confié chercher un lieu à la mémoire de son grand-père, explique cet élu.
Qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis ministre, je ne sais rien faire !
Donc, pourquoi pas voir un nouveau musée Louis de Funès. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais on sait que a priori, il devrait être installé face à gare du cœur au centre-ville Saint-Raphaël, nous dit le Figaro Culture. Voilà, et on vous en dira plus dans une prochaine émission, parce que moi, ça m'intéresse carrément, ce musée Louis de Funès de... Voilà.
Alors moi, il m'épate.
Dernier appel pour notre ville de Rouen, on retourne sur la ville de Rouen. Depuis le 1er juin, la cathédrale de Rouen s'illumine, donc bien avant l'Armada, plein de touristes y étaient, nous aussi on y était, c'est très 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 joli.
Magnifique, ouais.
La cathédrale s'illuminera jusqu'au 15 septembre, voilà.
Tous les soirs à partir de 23h.
Voilà.
Alors bonjour. Vous êtes venu ici pour vendre vos propres livres, c'est ça ?
Voilà, je suis auteur et puis donc j'écris des romans et des romans policiers qui se déroulent dans la région, en Normandie.
D'accord, donc vous inventez vos histoires ou ce sont basés sur de faits réels, donc vos romans ?
Eh bien, j'utilise la réalité historique, par exemple dans cet ouvrage qui s'appelle l'affaire Rouge-Turner. J'ai analysé un petit peu tout ce qui existait concernant le peintre Turner au 19e siècle qui a peint dans la région. Et j'ai imaginé qu'il était mêlé à une série de crimes. Donc je prends la réalité historique et en même temps j'invente un petit peu autour. Je modifie un petit peu.
Donc vous avez écrit combien de livres en totalité ?
Alors j'en ai écrit 6 en totalité. 5 romans policiers et puis un roman qui s'appelle L'école des rives. Qui est un livre qui se déroule ici, sur le lieu même de l'Armada.
D'accord.
Ça se passe dans les années 1930, et puis on suit un petit bonhomme qui s'appelle Jules, qui découvre le monde, et c'est un livre un petit peu dans l'esprit de La gloire de mon père, c'est-à-dire on est dans le monde de l'enfance, et voilà, c'est un livre agréable à lire, émouvant.
D'accord.
Disponible partout ?
Disponible dans toutes les bonnes librairies. Et puis que l'on peut commander un petit peu partout. Et puis en allant sur le site de la maison d'édition, le Cargo Imaginaire, on peut le commander où on veut. Et c'est un ouvrage qui véritablement nous montre quel était le visage de Rouen dans les années 30. et notamment à l'époque où il y avait des cargos, des machines à vapeur, et puis les derniers voiliers qui étaient là sur le port, comme aujourd'hui durant cette belle armada.
Donc là, je vois, vous avez des livres de guerre, ça parle... quelle guerre ?
Alors celui-ci, 42 rue des Mômes, c'est une enquête policière qui fait référence à la Seconde Guerre mondiale.
Ouais.
Et un événement historique qui s'est déroulé à Dieppe qui s'appelle le raid des Canadiens du 19 août 1942. C'est un débarquement de soldats canadiens qui s'est très 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 mal passé parce qu'ils ont été massacrés par les soldats allemands. Et donc moi j'ai écrit un roman policier autour de cela. J'ai imaginé que l'on tournait un film aujourd'hui, que l'on reconstituait ce raid avec des Spitfire qui passent dans le ciel, des soldats, donc des figurants, et puis au cours de ce tournage, une série de crimes et de mystères. Et une autre série de crimes autour des migrants qui essaient de monter sur les ferries pour gagner l'Angleterre. Donc le Dieppe d'hier et puis le Dieppe d'aujourd'hui.
Ah, tout de suite le sujet de la une, c'est parti.
De quoi faites-vous partie ?
Moi je suis volontaire chez SOS Méditerranée depuis un peu plus de 6 mois. Et donc je suis venue à l'Armada parce que donc, les états généraux des migrations ont prévu différentes actions pendant le temps de l'Armada. Et donc je suis venue voir un petit peu comment ça se passait. Et puis pour les remercier de parler de nous, de parler de l'Aquarius et de ce qui se passe en Méditerranée.
Oui, moi donc je suis représentant un peu des EGM, personnellement aussi d'Amnesty International. On a été 27 associations signataires en fait d'une demande de faire venir l'Aquarius ici, tout en sachant pertinemment effectivement que l'Aquarius n'était plus en activité. On aurait aimé qu'il soit là pour la valeur symbolique que ça représentait. On est entouré de bateaux de guerre et de bateaux de plaisance et ultra luxueux, et on aurait aimé qu'il y ait un bateau qui représente un peu la cause humanitaire. Donc quoi de mieux que l'Aquarius pour parler de ça.
Et du coup, SOS Méditerranée, qu'est-ce que c'est ?
Alors SOS Méditerranée, c'est une association civile européenne de sauvetage en mer. Donc aujourd'hui on n'a plus de navires de sauvetage, mais d'habitude en fait on était situé dans les eaux internationales proches de la Libye, donc entre la Libye et l'Italie, et on faisait voilà, du sauvetage de personnes en détresse en Méditerranée centrale. Il faut savoir aussi qu'on a trois missions, donc le sauvetage, la protection, donc ça c'est à bord avec notre partenaire médical Médecins Sans Frontières, et notre troisième mission c'est le témoignage et la sensibilisation, donc ça se passe surtout à terre, où on est présent dans 15 antennes, justement on fait beaucoup de sensibilisation dans les écoles, et après on est présent dans plein d'événements, on fait des conférences, des débats, des projections, etc. Et on est 450 bénévoles aujourd'hui en France à sensibiliser un peu partout en France.
Bravo.
Et du coup, l'Aquarius, que je pense que c'est un nom qui rappelle quelque chose à tout le monde, mais est-ce que vous pouvez un peu nous rappeler ce que c'était, son histoire, comment ça s'est passé, l'impact médiatique aussi que ça a eu ?
Alors l'Aquarius, donc c'est un navire de 77 mètres qu'on a commencé à fréter. Donc SOS Méditerranée s'est créé en 2015, mais on a frété l'Aquarius en février 2016. Il est parti en mission en février 2016. Il a fait son premier sauvetage en mars 2016. Et donc c'était un grand navire qui était assez idéal pour les sauvetages. À bord, il y avait trois équipages, donc les secouristes marins sauveteurs de SOS Méditerranée, on était une dizaine. Il y avait l'équipage médical de Médecins Sans Frontières, une dizaine aussi, et donc les marins qui faisaient fonctionner le bateau. Donc en tout, ça faisait une trentaine de personnes, et à bord, il y avait aussi donc des photographes et des journalistes. On a énormément entendu parler de l'Aquarius au moment de l'épisode de Valence, donc en juin 2018, donc ça fait on a commémoré un petit peu les un an de la fermeture des ports européens, des ports italiens, pardon. Et voilà, donc il y a eu un gros impact médiatique à ce moment-là, parce que c'était un petit peu la première fois qu'on nous fermait les ports, et qu'on a dû donc faire route vers Valence avec plus de 800 personnes à bord. Voilà.
Et du coup, maintenant, SOS Méditerranée, c'est quoi ? Est-ce que vous vous êtes pas arrêté à l'Aquarius, j'imagine ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis aussi ?
Depuis la fin de l'année, donc on a arrêté l'affrètement de l'Aquarius en décembre 2018. Donc, comme je vous le disais, on fait énormément de sensibilisation à terre. Et après, voilà, l'Aquarius était un outil de travail. Aujourd'hui, on cherche un nouvel outil. Ça prend plus de temps que ce qu'on imaginait, parce qu'en fait, il y a énormément de contraintes et peu d'offres sur le marché. Donc, aujourd'hui, on cherche un bateau qui puisse naviguer en mer tout le temps, qui puisse avoir une capacité d'accueil assez importante, aussi bien pour les rescapés que pour les personnes à bord. On cherche un bateau qui n'est pas trop cher, un bateau qui a un pavillon solide, et par solide j'entends qu'il ne va pas être influencé par les Italiens comme ça a été le cas avec nos anciens pavillons, et avec un armateur qui est d'accord avec ce qu'on fait, en tout cas pas en désaccord. Voilà.
Et du coup, comment vous soutenir? Est-ce que c'est pour directement trouver un bâtiment, si on peut dire? Est-ce qu'on peut reverser des fonds? Comment est-ce qu'on peut vous soutenir votre cause?
Eh bien, très bonne question. Alors nous, il faut savoir qu'on n'est pas du tout présent à Rouen. On a donc, c'est ce que je disais, on a 15 antennes bénévoles. La plus proche, c'est soit Paris, soit Caen. Donc après, si nous contacter à l'adresse contact@sosmediterranee.org, déjà juste recevoir des messages de soutien, ça fait énormément plaisir, surtout en ce moment où le climat est assez hostile. C'est nous faire des dons ponctuels ou réguliers sur le site, ça on en a toujours besoin, sachant que on est quasiment sûr que le prochain navire coûtera plus cher, parce que l'Aquarius, faut savoir que c'était un navire ancien qui était très bien entretenu, mais voilà, il n'y en a pas énormément sur le marché des navires comme ça. Et c'est aussi organiser des événements de soutien, nous inviter à intervenir dans les écoles, à des événements, parler de nous. C'est hyper important en fait aujourd'hui de parler de ce qui se passe en Méditerranée centrale, et c'est pour ça que c'est super qu'il y ait eu des actions organisées par les états généraux à l'Armada, parce qu'on est tous des amoureux de la mer ici, et la mer c'est pas juste la plage, les beaux bateaux, c'est aussi ce qui se passe, le drame en Méditerranée.
Est-ce que vous auriez un dernier mot à ajouter avant que le cortège de cornemuses arrive et finisse cet audio?
Eh ben, je dirais aux gens que c'est très important de soutenir et d'informer de ce qui se passe en Méditerranée. Je pense que chaque vie compte et que c'est très important qu'on se batte pour ça, pour les droits de l'homme, pour le droit à la vie, le droit à la dignité.
Oui, moi si je veux ajouter quelque chose, c'est que proprement dit, la question de l'accueil des migrants, c'est presque une autre question, presque annexe, qui découle de la première. La vraie question, c'est de sauver des gens qui sont en train de se noyer.
Et aujourd'hui, nous accueillons Hébergement Solidaire. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Bonjour à vous. Donc, expliquez-nous un peu qui êtes-vous et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici aujourd'hui, parce que voilà, nous allons parler encore d'un sujet qui est malheureusement encore à la une. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, on passera à la fin un reportage qui a été fait à l'Armada avec la Croix-Rouge. Et notamment le bateau Aquarius qui a encore accueilli des migrants, c'est un témoignage de gens qui travaillent à la Croix-Rouge. Mais voilà, vous Jean-Pierre, vous êtes là pour nous parler d'hébergement solidaire, c'est bien ça?
C'est ça, c'est une action, donc je suis paroissien de l'église Sainte-Marie des Nations, Biorel, Hauts-de-Rouen. Et traditionnellement, depuis longtemps, on avait le souci d'apporter une aide aux personnes qui se retrouvaient temporairement sans domicile, sans hébergement. Et il y a 4 ans, on s'est organisé, puisque le presbytère de la Grand-Mare était disponible. Et du coup, on a demandé à l'évêché à pouvoir l'utiliser pour accueillir des personnes qui se trouvaient privées de logement. Donc, nous avons commencé à accueillir des familles dans ce local. Et en même temps, nous avons organisé une action pour accueillir dans des familles des paroissiens qui acceptaient d'accueillir à leur domicile, pour une durée déterminée, des personnes qui étaient aussi sans logement, sans hébergement. Voilà comment l'action a démarré il y a 4 ans. Donc aujourd'hui, on a toujours ces deux axes dans l'action, à la fois dans le presbytère. Aujourd'hui, il y a 2 familles qui sont accueillies à Sainte-Claire et plusieurs personnes qui sont accueillies dans des familles de paroissiens. Là, c'est un peu différent parce que c'est pour une durée déterminée. La personne qui accepte d'accueillir chez elle le fait pour une durée qui peut varier entre 2 semaines et 6 semaines, parfois un peu plus, mais en général, c'est déterminé au départ. Et les règles qui sont posées, c'est que la famille qui accueille offre le gîte et le couvert. Et pour le reste, c'est le groupe qui s'occupe de l'accompagnement pour les démarches, etc. Et pour une aide financière si besoin.
Et le groupe, c'est-à-dire?
Le groupe, c'est-à-dire une dizaine de personnes qui sont vraiment engagées.
Qui sont bénévoles.
Qui sont bénévoles,
au sein de l'association Hébergement Solidaire.
Voilà.
Donc nous, si on a envie d'être bénévole, parce que là, on est ici sur Rouen, mais est-ce que c'est autre part ailleurs aussi en France? Comment vous trouvez?
Donc notre action, elle est sur la paroisse, ici, hein, sur le secteur, les Hauts-de-Rouen, Biorel.
D'accord.
Elle est rattachée à un mouvement plus global qui s'appelle la pastorale des migrants. Donc là, qui elle est organisée au niveau national avec des antennes régionales.
D'accord. Vous accueillez de plus en plus ou de moins en moins de gens?
Alors,
en règle générale,
Aujourd'hui, nous avons 7 adultes qui sont accueillis, oui, et 11 enfants pour un total. Donc, ça fait 17 personnes qui sont accueillies. Nous continuons. Les liens qui se sont créés avec les personnes qui ont été accueillies continuent. Donc, en fait, ça fait un nombre de personnes que l'on accompagne un peu globalement, qui tourne autour d'une trentaine, une quinzaine d'adultes, oui, mais ça concerne une trentaine de personnes en tout. On peut dire que ça augmente un peu le nombre de personnes que l'on connaît par ce biais-là. Le nombre de personnes accueillies n'a pas augmenté en lui-même, mais par contre, les demandes augmentent. C'est-à-dire que, comme mon numéro de téléphone est publié, j'ai quasiment une fois par semaine quelqu'un qui m'appelle, soit des hommes seuls, soit des personnes avec des enfants, pour dire est-ce que vous avez de la place. Donc ça veut dire que le besoin augmente.
Et généralement, donc ces gens qui quittent généralement donc soit la précarité, soit les guerres, hein, comme il y a eu en Syrie. Vous accueillez généralement, je pense que ma question est idiote, mais je vais quand même la poser. Vous accueillez généralement plus des familles ou des gens seuls?
Alors, dans les familles, on accueille des femmes, essentiellement des femmes. C'est beaucoup plus rare qu'on accueille des hommes.
D'accord.
Des femmes et avec jeunes enfants. Un enfant, un bébé, un enfant ou deux enfants, parce que c'est difficile d'accueillir plus dans son logement, forcément. On a eu quelques hommes seuls qui ont été accueillis, mais on essaie le plus rapidement possible de trouver d'autres relais. Voilà. Donc le principe aussi, c'est que chaque personne qui est accueillie fait les démarches pour accéder à autre chose. Mmh. Soit dans des structures institutionnelles, des centres d'hébergement, etc.
Oui, puis les gens qui arrivent en France ne sont pas français. Donc ils doivent faire des papiers, il y a des démarches à faire administratives, je suppose.
Alors notre action est ouverte à tout le monde, c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi des personnes qui sont françaises et sans domicile. Bon,
d'accord.
Il se fait qu'aujourd'hui, les sollicitations viennent essentiellement de personnes en migration et que... il existe aussi d'autres dispositifs comme Welcome, etc. Les personnes qui sont en début de procédure de demande d'asile sont prises en charge dans les CADA habituellement. Donc, quand les personnes ont une solution CADA, on leur demande de la prendre. Ce qui fait que nous, on se retrouve aujourd'hui avec essentiellement des personnes qui ont épuisé toutes les procédures initiales.
Oui.
Et qui sont en recours, etc., où là, on va avoir des procédures qui sont parfois plus longues.
D'accord. Donc, vous nous avez fait venir de personnes que vous avez aidées, vous, dans... Enfin, vous m'avez dit de ne pas dire association, c'est plus...
L'action, oui,
Action.
Oui, oui, oui.
Action Hébergement Solidaire, bonjour. Enfin, on s'est déjà dit bonjour, mais... Donc, j'aimerais savoir, puis nos auditeurs et auditrices aussi, j'espère... Comment, enfin, dans quelles conditions vous êtes arrivé, si vous voulez bien nous dire d'où vous êtes venu, et puis aussi comment vous avez ressenti l'arrivée en France, de quelle façon avez-vous été accueilli?
Bon, en fait, c'est un peu long s'il faut tout raconter ici.
Oui.
On prendra toute une journée.
Non, on peut dégrossir.
Mais en fait, brièvement, je dirais que je suis venu ici dans une circonstance un peu bizarre parce que j'avais une occupation au pays et j'ai vécu plus ou moins bien. J'étais pas riche, j'étais pas non plus pauvre. Parce que j'étais éducateur et ensuite, j'étais aussi religieux. Donc j'avais connu des problèmes avec les autorités de mon pays, et tout simplement parce que j'encadrais les enfants de la rue, les enfants abandonnés, les enfants, les orphelins. Et chez nous, comme vous savez, les politiciens utilisent souvent ces enfants pour leurs fins politiques, égoïstes et tout ça. Souvent, ces enfants sont recrutés ou pris de force pour les envoyer ou les recruter dans les groupes armés. Donc, du coup, moi, je travaillais dans une association pour la protection de ces enfants-là.
D'accord.
Et
donc, en quelque sorte, vous vous êtes opposé à ce système réfractaire.
Voilà. Oui. Donc, du coup, j'étais obligé de quitter le pays.
Oui.
Et pour aller ailleurs, pour me sauver. Donc, c'est dans cette circonstance-là que je suis venu en France.
Oui.
En juillet 2015. Voilà.
D'accord. Et là, Hébergement Solidaire vous a accueilli. Vous avez connu.
Pas tout de suite, parce que j'ai d'abord, comme l'a dit Jean-Pierre, j'avais d'abord suivi la procédure normale à l'OFRA, ça n'a pas été.
Oui.
Suis allé à la CNDA.
Oui.
Oui, ça n'a pas été non plus. Mmh. Et du coup, j'ai entamé une autre procédure pour les étrangers malades. Et pendant ces temps, j'avais quitté les CADA. Et du coup, on m'avait indiqué le groupe hébergement solidaire à la paroisse Saint-François ici à Châtelet.
D'accord.
Donc, c'est là que j'ai connu Jean-Pierre et qui m'a mis en contact avec les groupes. Et dans un premier temps, j'avais eu la chance d'être logé au presbytère de Sainte-Claire, à la paroisse Sainte-Claire,
d'accord,
toujours à la Grammaire.
Oui, oui, oui.
Et là, j'avais fait plus ou moins 6 mois.
Mm-hmm.
Et comme ils devraient accueillir encore d'autres familles, spécialement les femmes, avec des enfants, moi, j'étais transféré au presbytère de l'église Saint-Jean-Eudes à Biorel. Donc, c'est là où je suis, là, jusque-là. Donc, après, j'ai fait près d'une année et 3 mois. Voilà.
Et en arrivant en France, quel était votre état d'esprit ? Vous étiez plutôt serein ou directement, vous disiez non, je ne vais pas savoir quoi faire, dans un milieu qui n'est pas...
Oui.
Qui n'est pas le mien.
En fait, c'est ça les premiers impacts. Parce que je ne connaissais personne ici en France. Moi, j'ai plutôt vécu en Italie.
D'accord.
Pendant plusieurs années.
Oui.
J'ai même étudié là-bas.
Mm-hmm.
Donc, du coup, quand je suis arrivé en France, je n'avais pas de repères.
Mm.
Bon, et la seule chose qui m'est restée, c'était l'église. Donc, je savais qu'à l'église, je pouvais rencontrer des gens, faire des nouvelles connaissances et voilà, être un peu assuré, quoi. Par un entourage, des amis et des frères peut-être de même pays. Donc c'était ça en fait mon idée.
Et il y a une question qui me vient à l'instant à l'esprit. Quand vous vous retrouvez avec des gens qui sont assez déboussolés et puis il y a peut-être aussi une barrière avec la langue, comment ça se passe ?
Alors, déjà, ce qu'il faut préciser, Gilbert a expliqué son parcours.
Oui.
Espérance en a un autre. Chaque histoire est différente.
Mmh.
Et les motivations sont toujours différentes. Voilà. Et nous, quand on rencontre les personnes, c'est toujours un enrichissement parce qu'on découvre aussi des univers complètement différents.
Oui. Voilà.
Et donc, on doit s'adapter à ça. La question,
c'était la barrière de la langue. Et
la
puis aussi, pas consoler, mais bon, quand on a un pays en guerre, ou comme l'a expliqué très bien, avec un pays réfractaire où on n'a rien le droit de faire, quel est l'état d'esprit de ces gens ? Est-ce que vous avez les moyens, pas financiers réellement, mais est-ce que vous avez les moyens de faire
On essaie,
l'épaule.
On essaie d'apporter de la chaleur humaine parce que je pense que c'est très difficile d'arriver dans un pays où aujourd'hui, je dirais que l'accueil n'est pas chaleureux. Et l'accueil administratif, encore moins, pas les personnes, mais les réglementations sont très difficiles.
Oui, puis on a énormément de paperasse en France. Hein. On est le pays le plus...
Et aujourd'hui, les blocages administratifs au niveau de la préfecture sont des rouages très, très complexes. Donc, on essaie d'expliquer aussi aux personnes le parcours qu'il faut prendre pour essayer de trouver une solution pour sortir de ça. Mais c'est compliqué. Même nous, on en apprend tous les jours parce que les réglementations sont très complexes, de plus en plus difficiles.
On avait donc un cas par rapport à l'Église, mais si quelqu'un n'est pas croyant, il ne veut pas spécialement rentrer au sein de l'Église pour avoir ses conseils, imaginons.
Oui.
Alors là, par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe? Existe-t-il d'autres structures où les gens peuvent être aidés?
Alors, je précise tout de suite.
Parce que ces gens viennent ici aussi pour subvenir à leurs besoins, avoir un travail, ou si c'est un jeune, pour aller à l'école aussi.
Je précise tout de suite, nous accueillons toute personne qui nous fait la demande.
Oui.
On ne s'occupe pas de sa religion.
D'accord.
On peut très bien avoir une personne qui ne soit pas croyante, je veux dire, si elle a besoin d'aide et qu'on peut lui apporter, on le fera.
D'accord.
Ce n'est pas une condition pour entrer dans... On a une personne aujourd'hui qui est musulmane, qui pratique sa religion, très bien. Je veux dire, on est complètement ouvert à ça. Hein. C'est pour préciser. La barrière de la langue, c'est vrai que c'est difficile. Maintenant, il existe Google Traduction, il existe... on utilise aussi parfois d'autres personnes qui peuvent nous faire un peu la traduction. Et quand ce sont des anglophones, là, c'est un peu plus facile. On arrive plus facilement à trouver des personnes qui parlent l'anglais.
Donc, si je comprends bien, oui.
Ça arrive qu'on ait des personnes qui ne parlent pas le français. Par contre, on les encourage à participer à des cours pour apprendre le français. Puisque si leur souhait, c'est de rester ici, il faut qu'elles fassent tout pour pouvoir s'adapter au niveau de la langue.
Mais vous n'avez aucune aide extérieure?
Nous, non.
Aucune?
Ce sont uniquement des paroissiens qui acceptent de donner régulièrement 15 euros, 20 euros, 30 euros par mois. Et puis, de temps en temps, des quêtes ponctuelles. Mais nous n'avons aucune aide extérieure.
Donc, cette fiche-là, pour ceux qui nous voient, je vais la scanner pour que les gens puissent la voir. C'est pas compliqué, c'est simple à remplir. Donnez-nous vos coordonnées, blablabla. Ensuite, vous donnez votre adresse mail personnelle, en plus. Donc, hébergement solidaire. Baptiste, avais-tu une question à poser? Ou alors on...
Alors moi j'en avais juste une petite avant de passer à Espérance. À part des logements, est-ce que à part encourager pour justement pour apprendre la langue ou justement s'adapter, faire des actions en France, est-ce que vous proposez vraiment que des logements ou vous proposez aussi d'autres actions qui peuvent aider à l'intégration en France?
Donc la priorité c'est effectivement de pouvoir apporter un abri pour les personnes, parce que être à la rue, c'est terrible. Mais on sait qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes d'hommes seuls ou de femmes avec des enfants qui sont à la rue. Et là, c'est très, très difficile. Donc notre priorité, dans la mesure où on a des familles qui peuvent accueillir et où on peut avoir une place, ça va être d'offrir cette sécurité. Et déjà, quand les personnes peuvent dormir en sécurité, on peut commencer à aborder des démarches à faire. Mais après, ça va être l'accompagnement qui va être très important. L'accompagnement dans les démarches, l'accompagnement pour accéder à la banque alimentaire, pour accéder aux soins, pour accéder à des cours. Voire pour des personnes qui sont là depuis plus longtemps, pouvoir trouver des petits jobs. Parce qu'une personne qui... Il ne faut pas croire qu'une personne, parce qu'elle est déboutée de ses droits au niveau de la préfecture, n'a le droit à rien. Elle a le droit de scolariser ses enfants. Tout enfant sur le territoire français doit être accueilli à l'école. Et toutes les écoles, on n'a jamais eu de problème de scolarisation des enfants. Toute personne qui est sur le territoire français peut être soignée. Mais il faut effectivement qu'elle ouvre des droits à l'AME. Et des personnes qui sont là depuis plus de 6 mois peuvent aussi trouver des boulots payés en CESU. Donc, et l'employeur qui fait ça est tout à fait dans son droit. La circulaire Valls l'autorise. Donc il y a un certain nombre de choses qui peuvent se faire pour s'intégrer.
D'accord, ok. Donc, vous, Espérance, maintenant, je vois que vous êtes un peu timide.
Non, ça va.
Donc, nous, racontez-nous un peu comment êtes-vous arrivé justement ici.
Votre parcours, oui.
En fait, moi aussi, je vais être juste bref par rapport à mon histoire. C'est... Si je commence aussi à parler, peut-être on peut passer toute une nuit ici.
Ça va être long. Oui.
C'est une très longue histoire, mais moi, je vais être bref. J'ai connu aussi pas mal de difficultés dans mon pays. Et il fallait que je puisse quitter mon pays pour que je puisse aussi être me protéger. Mais je suis passée par l'Espagne. Et je ne pouvais pas rester à l'Espagne. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas parler l'espagnol et je ne connaissais pas aussi personne. Quand je suis arrivée à l'Espagne, j'ai rencontré un frère africain qui m'a dit si tu auras des difficultés parce que tu parles mieux français, tant mieux que je t'oriente, tu puisses quand même aller en France. C'est une pays des droits aussi, pour que tu puisses aussi trouver une protection. C'est pourquoi je suis arrivée en France. Arriver en France, ce n'était pas aussi facile. Il fallait faire l'asile. L'asile, il faut aller à gauche, appeler les 115 et tout. J'ai fait l'asile. Ça n'a pas marché. J'étais à la CNDA et l'OFPRA, ça n'a pas marché. Et après, j'ai eu un petit garçon qui s'appelle Curtis, qui a juste 17 mois. Et grâce à ce Curtis-là, moi, je le dis souvent que c'est une grâce pour moi de pouvoir avoir un enfant ici. Parce que quand tu es dehors, tu n'as pas l'enfant, tu appelles les 115. Première des choses, on te demande, tu as des enfants. Quand tu dis non, on te dit, il n'y a pas de place. Les places qu'on a ici, c'est pour des gens qui ont des enfants. Et malheureusement, j'ai eu Curtis et après, on faisait les 115. Vu mon dossier, parce que pour le moment, j'ai quand même fait les démarches, pas des démarches. J'ai atteint une titre de séjour vie privée familiale. Et j'étais suivie par cabinet d'un avocat. Cabinet d'un avocat m'a orientée vers pastorat d'immigration. C'est là où j'ai rencontré M. Auchard. Grâce à M. Auchard, je suis quand même trouvé aussi l'hébergement à gauche dans les familles, à gauche à droite. J'ai connu pas mal de familles. Aujourd'hui, j'ai créé vraiment. Moi, je dis souvent que j'ai eu une famille ici en France parce que tout le monde qui m'a accueilli chez eux, on a eu une relation là. Vous n'aurez pas idée, quoi. Mais comme mon fils, maintenant, aujourd'hui, il a pas mal de mamies, pas mal de papis, grâce à l'hébergement solidaire. Et quand il rencontre toujours les gens, il est content. Mais vraiment, c'est un parcours qui n'est pas facile, qui est dur. Il y a les hauts et les bas. On rencontre aussi pas mal de choses. Mais on espère toujours que ça ira toujours parce qu'on est là. Voilà, quoi. J'ai pu être bref.
Et qu'est-ce que vous avez fait, j'ai peut-être mal compris, mais quand vous avez appelé le 115 la première fois et qu'on vous a refusé, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Et j'ai passé une nuit à l'hôpital de Charles-Nicolle. Oui. Parce que souvent on nous dit, on n'a pas de place, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas de famille, tu n'as pas l'endroit où aller. Je suis allée à la Charles-Nicolle, mais sauf qu'à la Charles-Nicolle, ce n'est pas tous les jours que tu dois passer la nuit là-bas. Parce que c'est l'hôpital, ils sont là, c'est pour les malades, ce n'est pas pour les gens qui n'ont pas l'endroit fixe pour rester.
Oui.
Et quand Espérance dit l'hôpital, comme beaucoup de personnes qui sont à la rue, c'est dormir dans l'anneau central, sur les banquettes. Hein.
Vous êtes juste à l'accueil.
C'est profiter d'un endroit qui est protégé et au chaud pour pouvoir dormir. Mais il n'y a rien d'autre.
Ça m'est arrivé aussi. Ouais. Moi aussi, le premier jour, j'ai foulé mes pieds ici à Rouen. Et j'avais appelé 115 désespérément. Donc, jusqu'à 23 heures la nuit, il n'y avait pas de réponse et du coup, passé nuit à la gare, devant la gare, parce que la gare a fermé, je crois, vers 1 heure. Et puis après, j'ai passé nuit là-bas.
Donc si on refuse, en fin de compte, c'est parce qu'il y a trop de demandes.
Exactement. Il y a plus de demandes que de possibilités.
Ça peut être ça, mais ils ont parfois des places. Hein.
Le 115 est saturé. Faites l'expérience.
Tu peux appeler toute la journée, mais... Tu n'auras même pas aussi la chance qu'on te puisse te recevoir parce que c'est difficile. Ils sont toujours occupés. En tout cas, c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile.
Et comme aujourd'hui, il y a beaucoup plus de demandes que de places disponibles, les solutions qui ont été mises en place par le Carrefour des Solidarités, qui fait ce qu'il peut, c'est qu'il propose des mises à l'abri. C'est-à-dire qu'une femme avec un enfant, on va lui proposer 3 nuits dans un hôtel ou dans un petit appartement. Et puis après, pendant 15 jours, elle n'aura pas d'autre solution. Et ensuite, on lui repropose 3 nuits, etc. Avant de pouvoir accéder à une solution d'hébergement. Mais là, il faut attendre 1 an et demi ou 2 ans.
Oui, c'est vraiment long. C'est très, très long.
Et donc, aujourd'hui, quelle est donc votre situation? Qu'est-ce que ça vous a permis, du coup, cet hébergement solidaire? Vous avez un logement, je suppose, maintenant? Et puis...
Moi, je peux dire oui, grâce à l'hébergement solidaire, ils m'ont pas... D'accord. Ils m'ont accompagné dans toutes mes démarches. Grâce à l'hébergement solidaire, aujourd'hui, j'ai un endroit quand même où je peux rester. Je ne sais pas si vous connaissez ça, à l'ONEM, une centre parentale à Cantelet. pour quand je suis là.
D'accord, oui.
Donc je suis là, j'ai une studio avec mes enfants, je suis là, super. Enfin, moi, c'est grâce à Hébergement Solidaire, que, grâce à ces démarches, qu'on a trouvé une place pour moi. Voilà.
En partenariat, il faut préciser, avec le service social du département, qui a instruit la demande pour que tu sois accueilli à Canteleu.
Oui, oui. Hein,
c'est vrai qu'il y a eu un travail intéressant de fait avec eux.
Pour terminer, je vais me retourner encore vers vous. Comment faites-vous ? Vous avez des campagnes pour recruter des bénévoles ou vous n'allez pas dans la rue manifester ou je ne sais pas, pour avoir plus de bénévoles ? Parce que quand on entend des témoignages comme ça, qu'il n'y a pas cette place, où vont ces gens ? Se passe-t-il ?
On a effectivement pas assez de bénévoles, pas assez de familles accueillantes.
C'est ça.
Par contre, on n'a pas de campagne de communication. On n'est pas très, très bon là-dessus, j'avoue. Mm-hmm. Donc, la radio est l'occasion d'en parler.
Hein. Oui, tout à fait.
S'il y a des personnes qui ont un petit peu de place chez elles et seraient prêtes à accueillir pour quelques semaines. C'est toujours limité dans le temps, de toute façon. Et ça, on respecte strictement le délai qui est fixé initialement. Donc, s'il y a des personnes qui ont un peu de place chez elles, n'hésitez pas à nous contacter. Et vous verrez, ça permet de faire de belles rencontres aussi. Ensuite, les moyens financiers, bien sûr, on est toujours preneur parce qu'on apporte une aide matérielle pour les personnes, sachant que lorsqu'elles sont au bout des procédures, souvent, elles n'ont plus aucune ressource, sauf une aide du département de 75 euros, mais ça reste peu pour assurer sa nourriture, ses déplacements. Ça reste un peu dérisoire. Et puis, des personnes qui auraient un peu de temps, pouvoir accompagner, parce que, comme Espérance l'a bien dit, c'est aussi en accompagnant les personnes qu'on arrive à faire accéder aux droits et ouvrir des portes. Voilà. Donc, pour tous ces besoins-là.
On apprend aussi beaucoup de choses. On découvre aussi beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas ici en France. Au fur et à mesure, vous faites des démarches et vous racontez pas, vous apprendre aussi beaucoup de choses à la fois, quoi. Comme on dit, il faut être intégré, c'est pourquoi on est là, on crée toujours des racines pour qu'on soit intégré à la France. Voilà. D'accord.
Mais moi, je remercie aussi les personnes qui sont passées par l'action de nous avoir appris beaucoup de choses et on a découvert. On apprend. On apprend en marchant. Donc, voilà.
D'accord, d'accord. Et donc, pour finir, si les personnes sont intéressées pour venir vous aider, on peut vous contacter comment ?
En prenant, vous allez voir le petit coupon d'inscription sur le papier, sur le site. Et sinon, vous appelez au 06 22 09 47 86.
D'accord, on vous remercie. Bah, écoutez, c'était des reportages très émouvants. De très belles histoires. Personnellement, je vous souhaite bonne chance pour l'avenir.
Merci.
Vous avez une très belle association et puis continuez comme ça. Et puis on vous remercie d'être venu à la radio.
Merci
d'avoir témoigné.
Merci pour ces témoignages. Merci. Vous avez des projets ensuite par la suite là pour terminer.
Oui, bon moi je donne
un coup de main
au centre Pernet.
D'accord.
Et j'aide un peu pour le cours d'alphabétisation.
Oui.
Donc pour les gens qui viennent des pays qui ne parlent pas français.
Bénévolement.
Le fais. Bon, je suis adhérent au centre Pernet. Et puis bon, voir aussi si. Parce qu'ici aussi, il y a pas mal de problèmes avec les jeunes. Hein. Donc, l'encadrement des jeunes pose problème parfois ici. Bon, je pense peut-être si un jour je pouvais être régularisé, travailler aussi dans ce sens-là. Voilà.
D'accord. Bah, c'est très bien.
Bah, oui, c'est parfait.
Voilà. Merci à vous. On vous souhaite le meilleur. Et puis, voilà.
Merci.
Merci beaucoup. Tout de suite, on passe à la musique. C'est elle avec Balik et Monsieur Nadjijan pour cette fête de la musique, parce qu'on est quand même au mois de juin. À tout de suite.
C'est elle, elle ne m'a jamais laissé, elle m'a toujours encouragé. Elle m'a dit qu'avec l'amour, la foi, j'y arriverai. Et c'est elle qui m'a guidé, qui ne m'a jamais abandonné. Dans les moments de tristesse, dans les moments de gaieté. Quand elle me chatouille les oreilles, je me sens comme emporté au pays des merveilles. Well, dans mon sommeil, à mon réveil, je ne pourrais vivre sans elle. Elle fait la mélodie qui embellit ma vie. Elle apaise mon esprit, c'est ma meilleure amie. Elle me donne tant de joie, elle remplit mon cœur d'espoir. Pour toi ma mélodie, c'est
toi la plus jolie. C'est vrai qu'elle se balade, se déguise et s'enivre. Vous la trouverez dans un disque ou dans un livre. Si elle est bonne, vous la retiendrez. Si elle ne l'est pas, Nati la laissera s'échapper. On parle de la flamme de l'être humain. La mélodie lui délie les mains. L'artisan, le prêtre ou l'écrivain. Chacun sa musique, chacun son refrain. C'est comme si elle était venue me sauver la vie. Sans la musique, moi je perds la tête, je perds mes envies. Il suffit qu'elle sonne ses petites harmonies pour que la bonne humeur s'installe, des moments de folie. Partout où je vais, elle est à mes côtés, c'est ma dope et c'est du real, elle vit. Reggae musique au top, y a pas photo, je suis fou d'elle. Il n'existe pas d'antidote, de Rémi Passo, l'acido fidèle. Il n'y a pas meilleur sport que quand le monde se déchaîne et que les guerres s'enchaînent. Il n'y a que la mélodie pour apaiser nos peines. Mes frères et sœurs dans la misère, on écarte les frontières. Nati Jean Wayan va les coups donner du love à cette mélodie qui embellit ma vie. Elle apaise mon esprit, c'est ma meilleure amie. Elle me donne tant de joie, elle remplit mon cœur d'espoir. Pour toi ma mélodie, c'est toi la plus jolie.
Comment te le dire, comment mieux le signifier. Aucun exclu, elle ne compte que des initiés. La musique est à tous où qu'elle soit. Et je ne connais personne qui n'apprécie pas ses lois. Elle peut changer de grand bout de rythme, dit-on. Mais quand elle hausse le ton, tout le monde sait qu'elle a raison. Courageuse, veuillez croire qu'elle ne connaît pas la peur. C'est tel temps de guerre qui fait chanter le dictateur.
Elle me donne tant de joie, elle remplit mon cœur d'espoir. Oh mélodie, c'est toi la plus jolie,
technologique.
Et donc pour cette chronique New Technology, de quoi allons-nous parler? Donc je me suis dit, on arrive en été, voilà, on a envie un peu de chiller, de se détendre dehors un peu, mais on peut lire un bouquin, on peut aussi traîner sur son téléphone un peu. Bon, il y a toujours les réseaux sociaux, mais j'avais envie de vous faire découvrir quelques applications sur téléphone. Enfin, après, il n'y a pas que la détente, il y a aussi des applications utiles, voilà, qui peuvent vous servir, tout simplement. Donc, j'avais envie de commencer avec WordBeat. Bon, moi, c'est anglais, parce que je l'ai en anglais, mais il y a toutes les langues. Et donc, en fait, c'est à chaque fois qu'on vous déverrouille votre téléphone, et bah, vous avez un mot de cette langue que vous voulez apprendre qui apparaît, avec la traduction en français. Donc, moi, personnellement, ça m'aide beaucoup pour apprendre les langues, parce qu'il y a beaucoup de mots que je ne connais pas, justement, et ça me permet de retenir bien. Et ça paraît tout con comme ça, on peut se dire ouais, on peut zapper et tout. Et puis non, parce que justement on peut dire si on connaît le mot déjà ou si on le connaît pas. Et donc il nous refait passer les mots qu'on connaît moins. Et ça nous permet d'apprendre beaucoup de vocabulaire dans la langue qu'on a décidé d'apprendre. Donc voilà pour la première appli. Ensuite, InShot, Festune et VSCO. Donc pourquoi ces trois applications ensemble? Parce que c'est des retouches de photos. Alors, InShot, ça permet de mettre des fonds, de recadrer la photo. Festune, ça permet de pouvoir cacher des petits défauts sur la photo. Et VSCO, ça va pouvoir bah, aussi de retoucher la photo, de mettre des filtres. Bon, ce que vous pouvez faire sur Instagram est vraiment en mieux. Donc, pour vraiment, bah, justement, poster une bonne photo Insta, quoi. Si elle n'est pas tout à fait parfaite. Ensuite, donc là, je vais vous parler d'un petit jeu. Un petit jeu narratif. Donc, ça s'appelle Friendzoné. Alors, c'est pas du tout un jeu sur la friendzone, justement. C'est vraiment un jeu avec une histoire, on va dire, de jeunes.
Ah oui, j'ai eu peur là. j'ai eu peur. Friendzone.
C'est pas du tout. Hein. C'est vrai que le nom n'a aucun rapport avec le jeu. Enfin, quasiment aucun. Et donc, c'est vraiment un jeu où le personnage va avoir une aventure. Mais pourquoi je vous en parle? Parce que des jeux narratifs, il y en a plein. Mais lui, justement, si vous en avez pas entendu parler, il a fait un gros buzz, on va dire. Mm. Et vraiment, ça touche personnellement. Moi, ça m'a touché. J'adore ce jeu. J'adore le refaire. On peut vraiment créer plein d'histoires parce qu'on a des choix. On choisit ce qu'on veut dire et tout. Et je trouve que c'est vraiment un jeu où on passe du bon temps dessus. Et ça nous procure beaucoup d'émotions. Donc, c'est un jeu à tester. Il y en a 4, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Et chaque jeu met à peu près une demi-heure, quoi. Donc voilà, donc ça prend pas trop de temps quoi. Et pour finir, donc si vraiment vous avez envie de faire des petites parties, de jouer vraiment de traîne, des jeux de combat et de stratégie. Des jeux de combat, si vous aimez Gun Osbourne, vous allez choisir un personnage où il y a 4 types d'armes, donc sniper, pompe, fusil d'assaut et grosse batteuse. Voilà, où vous devez vous améliorer les armes, combattre et tout, ou voir robots. Là, vous personnalisez vos robots, c'est sur des maps différentes, vous affrontez entre robots, vous avez plusieurs robots à chaque fois et tout. Donc vraiment, voilà pour deux jeux, si vous avez vraiment envie de se détendre tranquillement devant votre jardin, votre terrasse, sur votre terrasse. Et les jeux de stratégie, donc si vous le connaissez pas, mais je pense que tout le monde le connaît, Clash of Clans, voilà. Où c'est de l'attente, là, c'est plus où, comme ça, vous y allez 5 minutes dans la journée, vous mettez des choses à améliorer tous les jours. Voilà, c'est du temps à temps, donc ça prend vraiment pas beaucoup de temps à s'occuper, quelques combats et tout. Et sinon, un deuxième jeu dans le même style, Viking. Donc c'est à peu près le même délire que Clash of Clans, mais dans l'univers des Vikings. Voilà, pour les petites applications sur téléphone. Et voilà, donc si ça peut vous être utile, écoutez. Et je voulais juste vous informer, si jamais vous n'étiez pas au courant, qu'il y a eu l'E3 qui s'est déroulé à Los Angeles et qu'il y a eu 352 jeux présentés qui sortiront en 2019. Donc, je ne vais pas tous vous les présenter parce que 352, c'est beaucoup.
Oui, c'est clair.
Mais si jamais vous n'étiez pas au courant et que vous avez envie de voir ce qui s'annonce, et bah, vous pouvez aller sur leur site pour les découvrir.
Et c'est quoi le site?
C'est le 3, faut aller sur le site de le 3 directement.
D'accord.
Vous trouvez tous les jeux qui ont été annoncés. C'est une petite chronique New Technology. C'est déjà ça. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et tout de suite, donc, le deuxième sujet débat.
Bon, ce truc-là, on l'a vu.
Et on se retrouve tout de suite pour le sujet numéro 2. Donc, on va parler du réchauffement climatique. Faut-il s'en inquiéter? Alexandre, je te pose cette question. Faut-il s'en inquiéter du réchauffement climatique?
Eh bien, moi-même, avant de faire ce sujet-là, en fait, on va pas vraiment parler du réchauffement climatique, puisque on va parler plutôt du temps qu'on a eu au mois de juin. Alors, moi, j'ai envie de dire, c'est lié au réchauffement climatique. Alors, on doit s'en inquiéter. Mais c'est pire que ça. C'est que quand on voit des gens qui nous disent « J'ai eu des grêlons de la taille de la grêle de la taille d'une balle de golf », on a le droit de s'inquiéter. Je vous l'accorde.
Clairement, oui. Ah, ça fait peur.
Donc, il faut savoir que, par exemple, c'est pas des trucs qu'on a à rond, mais rien que pour la ville de Toulouse... donc pour vous ce sera la semaine prochaine, mais nous c'était hier, c'est tout frais. Des rafales, donc des climatologues ont eu des rafales, ont calculé des rafales à 137 km/h. Il faut savoir que c'est un record, ça faisait plus de 30 ans qu'on n'avait jamais calculé des trucs pareils. Comment ça se fait qu'on a des vagues sismiques aussi puissantes?
Eh ben, c'est la bonne question. Et donc moi, justement, je voulais revenir sur ça. Et comment ça se fait? Y a plein de raisons, bien entendu. En ce moment, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude.
Bah oui.
Mais alors, les premières raisons, déjà, il y a la pollution, hein, on connaît ça. Voilà. Mmh. Et puis, le réchauffement, moi, j'avais plus envie déjà de vous parler de ce qu'on peut faire. Mais avant, je vais revenir justement sur tous les problèmes. Donc, on va dire... comme je disais, la pollution avec tous les débris que vous allez jeter, le réchauffement, tous les voitures, donc essence, donc vous connaissez le débat, prenez les transports en commun, les vélos. Ce qu'on utilise, les matériaux qu'on utilise pour les industries, entreprises, charbon, tout le gaz qui est déversé. Normalement, vous vous en doutez, mais voilà, je le redis comme ça, voilà, le réchauffement climatique, c'est dû. Au fond, c'est pas grave tout ça, mais c'est cette accumulation excessive de tout ça qui va rendre un réchauffement climatique justement excessif et qui va produire des conditions météorologiques excessives. Tout est logique, tout se suit. Oui, tu me regardes, oui.
Oui, c'est la logique. On se regarde, nous regardons. Bon. Effectivement, c'est vrai que c'est assez affolant et on dit toujours on a des possibilités d'éviter ce réchauffement climatique. Certains disent aussi que le réchauffement climatique est dû à l'homme, d'autres pas du tout. Mais cet effet de serre, donc, comme tu nous le disais, Baptiste, très très bien dans ton allocution il y a à peine 10 secondes, effectivement, c'est ça, hein, c'est à cause de la pollution, les effets de serre, tout ça. Mmh. Donc, effectivement, là, on voit bien d'ailleurs que notre planète se refroidit avant de se réchauffer. D'ailleurs, truc complètement dingue, une société de production météorologique, donc le Nuage Normand, vous pouvez aller checker sur Facebook, ils ont carrément filmé un début de tournade à côté de la A29 direction Saint-Romain en Seine-Maritime. Vous avez déjà vu des tornades, vous? T'as déjà vu une tornade, Baptiste?
Jamais de mes propres yeux.
À part à la télé.
Dans les films, si.
Un début, pour ceux qui sont sur Baaba, vous voyez la photo. C'est vraiment impressionnant, un tourbillon qui commence à venir. Quand on questionne les météorologues, ils disent que c'est une chose tout à fait basique, à cause de l'humidité, tout ça. Comme si qu'on n'avait pas le droit de s'inquiéter. Nous, on est jeunes, on est l'avenir. Excusez-nous pour les personnes un peu plus âgées, mais bon, voilà, moi je trouve que c'est quand même inquiétant. En tout cas, voilà, nous en Seine-Maritime, j'ai jamais connu de tornade en tout cas. Et là, c'est vraiment impressionnant. Et d'ailleurs, pour revenir à cette armada, puisque le temps en Normandie et les touristes qui sont venus ici, les gens qui viennent des pays chauds ou qui viennent d'autres pays d'Europe ou même les gens qui viennent du Sud, ils doivent se dire merde, en Normandie, vous avez vraiment un temps de merde. Mais il s'avère que c'est vraiment, vraiment partout. D'ailleurs, oui. Pour l'armada, je vous lis préfet de Seine-Maritime, hein, on peut pas faire plus officiel que ça. Attention, attention, guillemets, guillemets. En raison de conditions météorologiques dégradées et par souci de sécurité, il a été décidé, et attention, tenez-vous bien, l'évacuation de l'armada. On a dû évacuer un événement aussi puissant que ça en Seine-Maritime.
Le premier vendredi, si vous ne le savez pas, ouais. Tout a été annulé. Ouais,
à cause de ce temps. Alors voilà, alors pourquoi un temps, pourquoi des rafales autant spectaculaires? On a dû annuler le feu d'artifice, etc. Donc, moi, j'ai quand même des questions à me poser, effectivement.
On a tous des questions à se poser. Si on voit notre temps aujourd'hui, ouais. Vraiment, parce que clairement, on a eu un mois de juin, bon, peut-être pas de notre côté, mais personnellement, les températures, elles étaient très élevées pour les débuts du mois de juin. Enfin, moi, personnellement, j'ai trouvé, hein, ça montait jusqu'à 30 des fois. Et enfin, au début, on s'en inquiète pas comme ça, mais en vrai, c'est inquiétant de voir déjà ces temps.
Il faut savoir que donc, à partir de cette semaine, que ce soit n'importe où en France, les températures seront supérieures à 30 degrés. Alors comment ça se fait? On a eu flippant. Des orages, on a eu de la grêle de la taille d'une balle de tennis. Après la balle de golf, c'est la balle de tennis. Et franchement, c'est impressionnant. Des températures supérieures. Et même le météorologue que je regardais tout à l'heure à la télé disait, voilà, on aura même des températures qui pourront frôler dans le sud jusqu'à presque 40 degrés. Des pics au mois de juin. Voilà, je vous rappelle qu'au 21 juin, le jour de la fête de la musique, eh bien, c'est l'été, et en été, bon, bah, c'est chose normale, mais bon, quand même, y a peut-être de quoi s'inquiéter, et surtout de refaire encore sonner la sonnette d'alarme.
Oui, faut toujours la sonner, justement, quand tu dis ça, ça me fait sourire, parce que, au fond, les gens entendent, vous entendez, mais vous nous voyez, mais est-ce que vous agissez? Agissez. Oui, je me reprends, désolé. Ça, c'est la vraie question, parce que c'est bien de dire ces chiffres, c'est bien de s'alarmer. Mais si on fait rien, au final, voilà. Donc moi, justement, par rapport au réchauffement, j'avais envie de vous donner quelques petits conseils. Parce que, voilà, bon, on va pas s'attarder non plus 30 000 ans sur les conséquences, fallait un peu les dire, mais vous connaissez les problèmes. Voilà, vous savez que la pollution, faut arrêter et tout, voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est la vraie question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est beau de prévenir, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc déjà, je vais vous conseiller un petit site, parce que je ne peux pas tous vous les citer. C'est 40 petits gestes pour lutter contre le réchauffement climatique au quotidien. Donc, pourquoi je vous cite ça? Parce que j'ai trouvé ça très très intéressant, parce qu'il y a des choses dont on n'aurait pas aidé. Bon, il y en a des évidentes, mais je vous en lirai une. Par exemple, c'est ranger bien votre frigo, ce qui va permettre à l'air froid de circuler correctement. Autrement, le frigo redoublera d'efforts pour apporter de la fraîcheur aux aliments, ce qui augmentera ses dépenses énergétiques. C'est des conseils comme ça. Alors,
beaucoup,
c'est tout con à faire au quotidien.
Les gens ne connaissent pas ce
genre
d'astuce.
Mais non, mais moi, je ne le connaissais pas.
Ouais,
c'est...
tout à fait.
C'est pour ça que je vous conseille que ce soit justement, parce que ça pourra... vous pourrez peut-être faire des choses que vous n'avez pas aidé de faire et qui ne sont... qui vont pas vous embêter, quoi, qui sont toutes connes au fond, qui ne sont pas dures à faire et qui peuvent être bien pour, justement, pour lutter contre le réchauffement climatique. Mmh. Donc, après, d'autres choses, bon. On le répète, je vous l'ai même dit tout à l'heure. Prendre les transports en commun, le vélo, aller à pied, hein. Clairement, moi, je vous donne mon exemple. Moi, tous les matins, je pourrais mettre 20-25 minutes pour aller à mon lycée tous les matins. Et pourtant, je prends le bus, je mets 50 minutes. Voilà, parce que justement, je fais gaffe à ça, voire même je marche des fois. Pour vous dire. Et donc, oui, aussi, je voulais vous parler justement d'un truc qui a été fait, parce que tout le monde se plaignait de la taxe carbone. Ouais. Hein, voilà, avec les gilets jaunes, justement, c'est comme ça qu'on démarrait les gilets jaunes. Et justement, la taxe carbone, au fond...
C'était une des premières revendications, effectivement.
Oui, clairement, oui. Et donc, justement, on s'en est peut-être pas rendu compte, mais grâce à cette taxe carbone, il y a eu la hausse des achats de voitures électriques. En fait, c'est logique, au final. On s'en est pas vraiment rendu compte, mais les voitures électriques deviennent de plus en plus, on va dire, à la mode. Les gens commencent de plus en plus à
acheter. Mais il y a des constructeurs automobiles qui ne font plus aucun véhicule diesel, essence, etc. Maintenant,
c'est super, ça.
L'électrique est... Et l'avenir, oui.
Oui, clairement, et l'avenir. Pour proche, j'ai des chiffres. Il y a 2000 voitures électriques vendues par mois. Donc, c'est pas encore énorme, mais franchement, c'est déjà ça. Et justement, au mois de novembre, où il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui a commencé, il y a eu 4368 voitures vendues donc au début des Gilets jaunes. Donc, au fond, moi, je pense que c'est pas une coïncidence. C'est fait exprès. Après, est-ce que c'est que les Gilets jaunes coïncident là? Je pense pas, parce que comme une voiture électrique, c'est un frais. Après, il y a des voitures très abordables, hein. La Twizy, qui est la petite voiture, bon, à une place, c'est sûr, voire une place et demie, quoi.
Ah oui, le petit pot de yaourt,
et t'as, ouais, le petit pot de yaourt, comme tu dis, et t'as 8000 euros. Bon, ça va, c'est quand même assez abordable. Puis après, il y a les plus grosses voitures. Bon, effectivement, c'est quand même un investissement. Mais voilà, déjà, c'est plus pratique, au fond, pour les économies, pour l'essence, déjà. Je pense qu'au final, voilà, pour l'électricité, ça vous fait largement moins dépenser, j'ai envie de vous dire. Donc au final, vous rentabilisez, bon, sur plusieurs années, c'est
ne
sûr.
Ne roulez plus en Porsche, roulez en Twizy.
C'est ça, hein, vous passez de 5 places à une place, mais c'est déjà ça, au moins. Mm-hmm. Et puis c'est aussi bien, justement, comme on le dit, pour le réchauffement climatique, on se répète encore. Mais...
oui, puis c'est une voiture familiale, hein, franchement, une place, ça peut...
c'est et un enfant, une grande place et un petit...
Ouais. Bon, bah, moi, de toute façon, moi, je peux mettre mon chien entre mes genoux, c'est bon, c'est ça, ma seule famille, hein. Clairement.
Dis pas des bêtises comme ça, toi. Ok, et donc...
mon chihuahua, il va rentrer. Voilà.
Alors, ensuite, je vais vous parler d'une organisation, d'un événement. Oui. Mais est-ce que, Alexandre, avant, tu aurais... parce que là, j'ai parlé de tout ce qu'on peut faire, mais encore quelques informations alarmantes sur le réchauffement climatique.
Ah oui,
mais... pas encore déclenché.
Alors, moi, ce que j'aime pas, là, je suis toujours le gars rabat-joie qui arrive avec des mauvaises informations. Mais sachez que, en tout cas, voilà, on a parlé d'écologie et on reparlera d'écologie parce que on prépare les futurs sujets. On va parler donc du véganisme dans des prochaines émissions et aussi pourquoi en France on mange de moins en moins de viande. C'est vrai que j'aime bien moi ce côté-là de cette prise de conscience et j'entendais quelqu'un l'autre jour qui me disait mais oui, mais quand vous étiez petit l'éducation nationale vous a planté dans la tête de tout le temps être écolo, de ramasser vos papiers par terre. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on a peut-être été endoctriné par l'éducation nationale. Non, moi je trouve que c'est une très très bonne chose.
Pourquoi endoctriné au fond? C'est
voilà,
pas mal,
oui,
c'est
non, en France c'est en tout cas il y a une vraie prise de conscience, même si oui. Les Italiens sont plus en avance, les Allemands encore plus que nous.
On mais peut pas être les meilleurs partout, mais voilà. On est déjà là. Et justement,
en tout cas,
40 petits gestes pour lutter contre le réchauffement, il y a justement ça où ils conseillent vraiment d'acheter du bio, des produits locaux, et justement pas des produits qu'on fait transporter, ça utilise de l'essence tout simplement.
Et tu voulais des chiffres alarmants, là ça va être la triste réalité. En Auvergne, Rhône et Alpes, généralement, bon, il fait frais là-bas, tiens-toi bien, à partir de la semaine prochaine, ça va être des températures maximales de 36 degrés qui vont être enregistrées. Ça va être une première depuis presque une dizaine d'années. Alors pourquoi on dit tout le temps une première? Parce que avant il faisait plus chaud, puis après il a fait plus froid, puis maintenant ça recommence. En tout cas, y a-t-il de quoi s'inquiéter? Eh bien, c'est les questions que je vais poser à mon ami climatologue qui n'a pas pu nous appeler aujourd'hui, mais je reprendrai contact avec lui bien entendu pour avoir plus d'informations. Je vais laisser parler Baptiste et ensuite on va
revenir avec un petit article, encore une fois, de 20 minutes, qui nous dit « Si nous continuons à ce rythme, le Groenland va fondre. »
Eh ben, tu sais quoi, je te laisse débattre sur cet article avant, et ensuite je parlerai de mon petit projet.
D'accord, ah oui, parce que là on a un grand projet avec la radio HDR, effectivement c'est un très très beau projet, très belle initiative Baptiste. Alors effectivement donc le Groenland est en train de fondre, on voit plein de photos sur les réseaux sociaux avant, après, avec ours polaire, sans ours polaire, effectivement on sait très bien que la biodiversité là-bas est très 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 restreinte de plus en plus puisque voilà les calottes glaciaires on le sait sont en train de fondre et ce qui bien évidemment augmente les océans et qui font augmenter ouragans, tournades, etc. Tous les climatologues le disent, mais pourtant, on ne s'inquiète pas vraiment. Alors, on a parlé, bien évidemment, des choses à faire pour ça. Bon, voilà, est-ce qu'on peut vraiment arrêter ceci maintenant, Baptiste? Moi, pour moi, pas vraiment. Après...
Comme tu dis, voilà, c'est ça, il y a...
Vraiment, voilà, on n'est pas des dieux. Après, moi, j'ai envie de dire qui vivra verra, mais malheureusement, bon, voilà. Après, il y a des belles actions à faire, effectivement, on va en parler après. Mmh.
Voilà.
Donc une nouvelle analyse a été publiée donc mercredi dernier, donc enfin pour vous c'est mercredi dernier, sinon pour nous c'est ce mercredi, avec des données donc de la NASA qui n'exclut pas qu'elle fonde entièrement dans le prochain millénaire sous l'effet du réchauffement climatique. C'est le réchauffement climatique, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, c'est dont on parle depuis bientôt plus de 10 minutes. Oui. Nous précisons que le Groenland deviendra très probablement sans glace d'ici donc la fin du millénaire. Réaction importante et voilà, donc, c'est très drôle.
Réaction, oh my god, ouais. Vraiment ça fait peur. Mais bon, de toute façon, tout ce qui concerne ce sujet, clairement, font peur.
Oui,
comme tu as dit.
Voilà. Donc voilà. Donc quand je vous ai parlé tout à l'heure de la montée des eaux, encore des derniers chiffres, encore de plus en plus récents, puisque c'est très très difficile de calculer ça. Et donc la NASA qui nous a apporté que 5 à 33 cm d'ici 2100 pour la montée des eaux. Voilà, donc c'est assez vaste, c'est assez compliqué à comprendre, mais c'est ce qui est. Donc à voir et à revoir.
Merci pour ces informations, Alexandre, des informations alarmantes, mais comme d'habitude, on va pas se répéter à chaque fois. Et donc pour mon petit projet,
bla bla bla.
Alors, okay. Alors, pour mon petit projet, je vous en parlais donc. Est-ce que vous connaissez le Clean Walk? Si vous le connaissez pas, je vous explique vite fait. On se réunit tous quelque part.
J'imagine les auditeurs qui t'ont répondu. Mais oui. Nous, on ne peut pas les entendre. On ne vous entend pas, messieurs, dames.
Oui. Alors, donc, le Clean Walk, on se réunit tous quelque part. Et vous prenez des gants. Voilà, des gants pour faire votre jardinage. Voilà, des gants pour ne pas vous salir les mains. Et des sacs poubelles. Voilà. Donc, on se réunit tous. Donc, moi, je pensais justement commencer à Tamarel, parce que c'est juste à côté et puis vous êtes dans le coin. Généralement. Et c'est une action où on va tous se mettre à ramasser décidément les déchets par terre. Voilà, on s'y met tous ensemble. Et je vous jure que quand on s'y met à beaucoup, au final, ça va très vite. Et puis comme disait justement le monteur, le créateur de ce mouvement, même si vous voyez un déchet par terre, même si c'est pas le vôtre, bah, ça devient votre déchet, car c'est votre ville, c'est votre pays. Voilà, c'est à vous, quoi, maintenant, ce déchet. Donc, faites l'effort de le ramasser.
Et on a tous jeté quelque chose par terre, consciemment ou inconsciemment.
C'est ça, oui, toujours. Et donc, justement, je vous propose ça, donc de faire un clean walk tous ensemble, de se réunir à Tamarel, donc le samedi 29 juin, donc 3 jours après que pour vous que l'émission sera diffusée, à 15h. Voilà. Et on se réunit tous, on prend tous des gants, des sacs poubelles, voilà. Et puis, on ramasse tous les déchets Tamarel. Après, on va marcher, on peut aller du côté du parc Carrefour Market, parc de l'Argilière. On peut aller par là, on avance tous ensemble, on ramasse plein de déchets. Et puis, ça peut être un mouvement aussi où vous pouvez justement discuter avec nous, discuter sur plusieurs sujets. On peut, voilà, partager des choses. Et puis, c'est un bon moment de convivialité. Donc, voilà. Donc, si vraiment vous êtes intéressé, je répète, le samedi 29 juin, et surtout que j'ai prévu cette date parce que vous devez tenir vos épreuves de bac pour les jeunes qui nous écoutent, samedi 29 juin à Tamarel à 15h. Voilà. Voilà pour mon petit projet. Donc c'est avec HDR. Donc on fera un petit film justement qui sera sur normalement.
Un petit documentaire, oui. Ouais. Alors tu m'as pris de court, mais effectivement, en plus, je voulais refaire un sujet avec le Smedar dans 2 mois, puisque en juillet on n'aura pas d'émission. On vous réexplique ça tout à l'heure. Mais effectivement, on avait un projet avec le Smedar. J'aurais aimé qu'il soit aussi partenaire avec nous, mais bon, comme c'est un peu tard, on va essayer de se faire ça quand même, Baptiste. Oui, on va réserver ton projet puisque tu as dit la date. Mais bon, on reverra ça avec eux. Je vais essayer de prendre contact. En tout cas, voilà, on vous a encore reparlé de ce sujet-là, puisque en juin, effectivement, c'est le mois là depuis quand même bien longtemps où il y a vraiment eu beaucoup de d'événements anticycloniques. Donc voilà, ça reste à voir. En tout cas, faut pas s'alarmer. Ne vous en faites pas. C'est les petits gestes d'aujourd'hui qui feront les grandes personnes de demain.
Très belle phrase et très vraie.
Merci beaucoup, merci de nous suivre. L'émission n'est pas terminée, restez avec nous. Nous allons enchaîner avec
La chronique ado
et puis à tout de suite.
C'est ça, à tout de suite.
For a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit, me get up. First shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the Fortrack busting. Halfway across that city with the back crushing. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country.
Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us.
Can we go?
I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I gotta eat it with in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We raw. Time to go off. Gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands. This is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we brought our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us.
Can we go back?
This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we brought our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us.
Let the night come before the price won. Some might run against the test, but those that triumph embrace the fight, cause the fears that prove that courage exists. Come on, now let the night come before the fight's won. Now some might run against the test, but those that triumph embrace the fight, cause the fears that prove that courage exists. Hope, hope.
Donc on se retrouve avec la chronique ado. Donc Alexandre, qu'as-tu en information toute fraîche à nous proposer ?
Eh bien, alors en information toute fraîche, eh bien c'est une information alarmante malheureusement.
Pour oh my god.
Oh là là. Je sais faire Snoopy aussi. Donc voilà.
Bref.
Donc Netflix, vous connaissez la plateforme qu'on a à la télé, qu'on achète, et bien malheureusement, ça va augmenter. L'augmentation des tarifs sera effectif dès le jeudi 20 juin. Pour les nouveaux abonnés, ce sera appliqué aux 5 millions de Français déjà abonnés dans les prochaines semaines. Donc, c'était au début des rumeurs qui figuraient, notamment sur les réseaux sociaux et qui circulaient, des augmentations des tarifs d'abonnement Netflix. Selon le Figaro, ce serait chose faite dès aujourd'hui. Depuis une vingtaine de pays, Europe, Moyen-Orient seraient concernés, dont la France qui compte 5 millions d'abonnés, ce qui fait quand même beaucoup. Donc, ces abonnements à peu près. Donc, l'offre standard pour ceux qui ne connaissent pas ou qui veulent s'abonner ou qui vont s'abonner, puisque la plupart du temps, on a un mois gratuit. Après ce mois gratuit, on va passer à 11,99€ TTC, etc. Charges toutes comprises, soit une augmentation tout simplement de 1€ pour la France.
Mais je vous rassure, hein, ça n'empêche pas que vous pouvez toujours gratter sur le compte de vos potes pour avoir le compte Netflix gratuit.
Il y a beaucoup de gens qui font ça et même qui chopent d'autres codes pour avoir directement tout. D'ailleurs, la plupart des gens qui ont Netflix, quand on a plusieurs écrans connectés, on paye moins cher en abonnement. Mais sinon, on peut toujours gratter, c'est vrai. Bon, voilà, mais nous, on
c'est
est
l'avantage
là...
toujours pour ceux qui grattent sur le compte de...
Ouais, voilà, mais bon, nous, pour le compte pédagogique, on dit ça, on dit pas... voilà, ça. Vous n'allez pas pirater non plus le truc Netflix.
voilà. Ça entre nous, ça reste entre nous. Vraiment.
Voilà, voilà. Ne le répétez pas.
Et donc ensuite.
Quoi ? Ok. Comme le rappelle le Figaro, depuis l'ouverture de son service en streaming en France 2014, Netflix a fortement augmenté ses prix pour. Excusez-moi, pour les forfaits standards et essentiels. En 5 ans, ils ont respectivement grimpé de 37,5% et 33%. Ces hausses, donc sans comme une mesure, les Américains depuis janvier dernier, eux, ils n'arrêtent pas d'augmenter, donc nous aussi, ne vous inquiétez pas, ça fait des taux de plus de 18,2% pour eux, une augmentation donc de $22.99 pour ceux qui sont aux États-Unis, puisque maintenant, l'actu des ados, c'est en streaming sur la page officielle de HDR, si je ne me trompe pas. Enfin, en streaming, comme on appelle ça, en podcast. Voilà, pour ceux qui nous écoutent dans le monde entier, que dire de plus pour...
monde entier avec une radio locale.
Oui, en podcast, c'est le but du podcast.
Oui, non, mais c'était de la blague, mais c'est pas grave. Allez, on coupe.
Voilà, voilà. Et puis, sinon, eh bien, nous allons vous parler de films tels au cinéma, Baptiste, ces derniers temps, où t'as vraiment trop été pris par le bac.
Ah, beaucoup trop été pris par le bac, justement, pour en dire... très vite fait, gros soutien à tous ceux qui passent le bac, hein. Moi personnellement je suis en première, je passe le bac de français et alors vous allez réagir avec nos réseaux sociaux, mais je veux savoir un truc, avez-vous trouvé le sujet de français très facile? Parce que je l'ai trouvé vraiment très dur, et enfin dur en tout cas, pas très dur, mais voilà, tout le monde le trouve facile, moi je n'ai pas compris. Et donc c'est aussi pour faire une petite pub pour nos réseaux, parce que réagissez donc avec notre Facebook, notre YouTube, b.a.ba, et on a ouvert un compte Instagram où justement on postera sûrement des photos du clean walk samedi. Avec
oula, alors oui, enfin pas tout de suite, il sera publié dans une semaine.
C'est ça. Et notre Instagram, donc,
est tout frais. Hein.
C'est aussi b.a.ba21, hein, je précise. Voilà.
D'accord.
Voilà pour nos réseaux. Et donc, dites-moi si vous l'avez trouvé facile. Et courage à tous ceux qui passent l'oral de français ou pour les terminales, je ne sais pas. Je ne sais pas si les épreuves ont été finies. Normalement, les épreuves sont finies à l'heure où vous nous entendez.
Mais soi-disant, donc, il y a voilà, beaucoup de gens qui se sont plaints aussi sur la philo. Apparemment, ce serait très très dur. Il y a d'ailleurs, il y a même Actu Rouen que je check régulièrement. Et puis, ils avaient dévoilé le sujet une heure avant. Enfin, pas une heure avant, mais enfin, c'était bizarre. J'avais vu le sujet, j'ai fait oulala. Mais moi, j'ai trouvé ça trop bizarre. Enfin, les sujets, c'est un côté, c'était facile. Et puis bon.
Ouais, bref, cinéma, donc tu me disais.
Cinéma, donc tu n'es pas allé au cinéma. Non, malheureusement, il y a eu le tout nouveau Men in Black et beaucoup de gens ont été déçus qu'il n'y ait pas justement la figure emblématique de Men in Black, c'est-à-dire monsieur Will Smith avec tous les bons vieux acteurs. Mais bon, voilà, d'ailleurs, c'est le nouvel acteur, tu sais, celui qui fait.
Celui qui fait le penseur, tu penses.
Dans Marvel.
Dans Marvel, oui. Lequel? Un super-héros?
Oui. Thor, voilà, merci.
Ah, Thor.
Merci,
oui,
moi-même.
D'accord.
Donc, celui qui fait Thor, il remplace monsieur Will Smith, beaucoup de gens déçus. Enfin, bref, nous, on n'est pas allés le voir, mais ce qui nous intéresse, nous.
Je suis déçu, moi, ouais.
Ouais, ce qui nous intéresse dans l'actu des ados, c'est Terminator Dark Fate. Donc sa sortie approximativement devrait être le 23 octobre, dont une suite classique donc du Terminator 2 Jugement Dernier. Un truc que je ne comprends pas, et d'ailleurs puisqu'on est sur les réseaux sociaux, allez-y, dites-nous si on a raté un épisode, mais Terminator c'était censé être la fin. De cette épopée incroyable, et hop, ils nous ressortent un Terminator qui serait, c'est un peu comme Star Wars en fait, hein, ça devient délirant, et du coup ils refont comme un espèce de remake du Terminator 2, voilà, donc assez bizarre. Faut savoir que 35 ans après donc la sortie de Terminator, Arnold Schwarzenegger dit T-800 et Linda Hamilton se trouvent donc dans la sixième volée de la franchise. L'heure est aux retrouvailles, mais aussi au mea culpa. Effectivement, après donc, les épisodes de Terminator, James Cameron, donc, le créateur de la série aux commandes de tant de films qu'on connaît, hein, de films que tu es allé voir, tout le monde va voir les films de James Cameron, hein, notamment avec Avatar, tout ça, les plus grands et surtout les plus chers films. Rien à dire? Non, je croyais que tu voulais dire un truc.
Non, j'ai rien à rajouter, tu as tout dit, oui. De toute façon, dites-vous, vous avez obligatoirement vu un film de James Cameron, même sans vous en rendre compte, même sans le savoir. Hein, oui. Il en a tellement fait.
Bon, à part ceux qui vont jamais au cinéma et qui regardent jamais la télé. Enfin, bref, bon, voilà. Donc, bah, écoutez, on en reparle. Et puis, la bande-annonce est disponible dès le mois de septembre. Et le 23 octobre, sortie est prévue. Voilà.
Voilà. Et donc.
Y a-t-il un gros scandale?
Eh oui, il y en a un. Il y en a un, justement, je vais reparler d'Ivac. Alors voilà, là, il est énorme. Là, c'est infâme, c'est n'importe quoi.
D'accord.
C'est une diffamation. C'est vraiment. Pour vous, donc, qui nous écoutez, ça sera le jeudi, donc, pour l'épreuve LV1 d'anglais. Dans le sujet, à un moment, il y avait écrit letter au lieu de number.
Oh là là.
Sur le texte, donc, qu'il fallait comprendre. C'est un énorme scandale, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment n'importe quoi.
C'est une faute de la part de l'éducation nationale.
Oui.
Bah, il faut interviewer Jean-Michel Blanquer, là. C'est
ah
pas
là,
possible.
Clairement, c'est vraiment.
Ah là là.
C'est fou, quoi. C'est fou. Ouais. Ouais, c'est surtout que les. Voilà. Et quand on a eu des retours, justement, de. Bah, des jeunes qui ont fait le sujet. Ah, parce qu'il y avait une erreur dans le truc, moi, je l'ai pas vu. Voilà, à
oui,
peu près déjà.
C'est souvent comme ça. Hein.
Non, oui. Et puis, apparemment, ça a pas gêné. Donc.
C'est quand même un gros scandale, je suis désolé, mais au fond, ça n'a pas été dramatique. Voilà, voilà, pour le gros scandale. Donc, on espère en tout cas que bah, depuis septembre, donc, notre émission L'Actu des Ados vous a plu, hein, vraiment. Pour nous, c'est la fin de la première saison, hein, clairement, ouais. Qui était riche en émotions. On essaye vraiment de s'améliorer au fur et à mesure, avec des fois des erreurs de nos côtés, des trucs moins travaillés. C'est vrai qu'on est des ados, donc bon... voilà quoi, on
s'en fout un peu de la vie, hein, clairement.
non, voilà, on a
on meurt demain, c'est pas grave.
On est notre coin. On est notre point de vue ado. On espère qu'il vous a plu. On espère que vous avez bien aimé notre émission.
Merci.
Nous, en tout cas, on était très contents de vous produire ça, car ça.
Et bah merci à toi, Baptiste, d'avoir été là, surtout.
Merci à toi,
d'avoir animé. Voilà.
Merci à tous ceux qui sont venus, tous les intervenants dans l'année. Voilà, si vous nous écoutez, à tous ceux qui nous ont aidés. Ouais. Et puis, on revient vraiment avec, on va dire, un nouveau format d'émission pour la saison 2 l'année prochaine.
Ouh là là, alors là, tu t'excuses.
Je
ouais, voilà, tu vois dans l'avenir, là, t'es devin, là, carrément.
C'est carrément devin, oui. On en a déjà un peu discuté parce qu'on est prévoyant, nous on vous dit au revoir, et effectivement si vous voulez continuer à voir ce qu'on fait, à voir notre travail, donc sur YouTube b.a.ba, je répète toujours, Facebook B-A-B-A. Également et Instagram b.a.ba21, voilà, si vous voulez voir ce qu'on devient, voilà, notre actualité. Donc on vous remercie de nous avoir écoutés, c'était Baptiste et Alexandre, peace.
Et ouais, et on se laisse sur Ciao avec Malo, un coup de cœur de l'Armada, merci à vous, salut.
Perdu dans mon piano, glisse nos sentiments loin sans adieu ni câlin, toi parti pour toujours, je l'ouvre cet écrin, un besoin de m'exiler, de laisser tout s'envoler.